Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9, avec toujours notre générique que je continue à aimer bien. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, après une petite pause estivale, eh bien c'est le retour, un retour qui commence très tôt cette année. D'habitude, ça commence en début octobre et là, nous sommes mi-septembre et c'est déjà parti pour la saison théâtrale. Alors, je vais vous présenter un petit peu la nouvelle équipe. Yves Gurcan nous a quittés, il est parti à Strasbourg, voguer vers d'autres cieux culturels. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage d'accueillir Julie Cadillac.
Voilà, bonjour.
Bonjour. Tu es déjà venue à une émission, donc tu vas commencer à te rôder avec le micro, cette chose particulière. Et un habitué quand même, c'est Tito Livio Santos Motta.
Bonjour.
Bonjour Tito, bienvenue dans l'émission. Alors nous allons parler théâtre et nous commençons tout de suite sur des chapeaux de roue avec ce spectacle qui a lieu au Théâtre des 13 vents à Grammont. Il s'agit de la conférence de Christophe Pellet, un spectacle qui a lieu du 13 au 17 septembre, donc à Grammont. Et nous avons le plaisir de recevoir Stanislas Nordet. Bonjour.
Bonjour.
Alors ça me fait très plaisir de vous recevoir puisqu'on suit, Tito et moi, vos spectacles depuis quelques temps et on n'avait pas eu l'occasion de vous recevoir à Divergence FM pour des problèmes de calendrier. Et bien maintenant c'est chose faite et on est très heureux de vous recevoir.
Merci.
Alors la conférence de Christophe Pellet, c'est un texte qui fait un petit peu polémique. Je vais essayer de faire le pitch, ce qui n'est pas évident. Alors un homme seul donne une conférence. Plateau de Centre Dramatique National, une chaise, un pupitre. Il est auteur, vivant lâché dans le circuit. Écrivain français installé en Allemagne, il revient en France à l'occasion de ce discours public. Il se dit infesté, empoisonné par l'État français, l'esprit français et les entreprises culturelles du territoire français. C'est de là qu'il part et de ça qu'il parle. Le milieu étriqué des métiers de la pratique théâtrale nationale, boîte suintante d'enjeux mesquins, d'inculture flémarde, d'inanité crade, l'univers du théâtre décentralisé aux Parisiens, et avec lui le monde tel qu'il va, unique objet de son ressentiment. Voilà, c'est un petit peu pour poser le cadre. Alors Stanislas, d'abord une question, pourquoi avoir choisi ce texte qui visiblement fait un petit peu polémique ?
Je lis énormément de textes, d'auteurs contemporains notamment, puisque je monte en tant que metteur en scène pratiquement uniquement des textes d'auteurs contemporains. Donc les textes que je choisis, c'est toujours ceux qui m'inquiètent, qui me dérangent, qui présentent des aspérités, je dirais. Donc pour moi, le théâtre, c'est quelque chose qui ne doit pas être consensuel, qui doit plutôt être au contraire dissensuel. C'est-à-dire, pour moi, une représentation de théâtre réussie, c'est quand les spectateurs sortent de la représentation et ne sont pas d'accord sur ce qu'ils ont vu, sur ce qui... Voilà, ça doit être un objet vivant, le théâtre. Donc quand j'ai lu ce texte-là, il y avait... peut-être dire aussi que c'est un texte qui est vraiment en hommage à un texte de Thomas Bernhardt, le dramaturge autrichien, un texte qui s'appelle « Des arbres à abattre », c'est-à-dire que Christophe Pellet avoue même cette dette-là, il a écrit ce texte.
Il la revendique.
Adossé à Thomas Bernhardt. Le personnage principal s'appelle d'ailleurs Thomas Blanc-Guernon, donc un autre Thomas B. donc il y a vraiment quelque chose comme ça qui est avoué. Et dans les textes de Thomas Bernhardt, il y a cette espèce de violence contre son propre pays, puisque Thomas Bernhardt a même été jusqu'à refuser que ces textes soient représentés en Autriche. Et donc Christophe Pellet a repris un petit peu ce modèle-là et a aussi repris le modèle d'une forme de mauvaise foi assumée aussi. C'est-à-dire qu'il part de choses, je dirais, de constats qu'on peut tous voir, c'est-à-dire sur le microcosme théâtral français qui peut effectivement être parfois étriqué, sur l'esprit français qui ne se serait peut-être pas remis en cause et en question autant que dans d'autres pays qui ont été forcés de le faire. Une chose sur laquelle revient Christophe Pellet beaucoup, c'est la façon dont les Allemands ont fait d'une certaine manière ont psychanalysé leur propre peuple, leur propre pays après la guerre 39-45, et comme la France en tant que pays vainqueur ne l'a pas fait, s'est dispensé de le faire. C'est aussi ce que Thomas Bernhardt dit à propos de l'Autriche. Il dit que l'Autriche n'a jamais creusé en elle-même et remis en question quoi que ce soit après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle considérait que c'était l'Allemagne et pas l'Autriche, donc qu'elle pouvait se dispenser de faire ça. Donc ce texte-là, voilà, en le lisant, je me disais bien qu'il allait déranger, et bah voilà, je me disais que le théâtre, c'est ça avant toute chose. Le théâtre, ça doit déranger. Donc pourquoi ce texte-là ? Pour ça, et parce que, évidemment, je trouve que Christophe Pellet voilà, pose des vraies questions sur des dérives possibles du théâtre public français, notamment.
Et en plus, il y a un vrai style, parce qu'il y a une belle écriture, quand même, dans ce texte. Alors, c'est une écriture qui sonne juste.
Bah, y a une écriture tout court déjà, ça c'est important. Je pense que j'aurais pas monté le texte s'il y avait pas un enjeu littéraire comme ça. Et ça me fait penser beaucoup à Jean Genet. Jean Genet disait qu'il écrivait dans la langue de l'ennemi, cette France qu'il avait mis en prison. Et en même temps, c'est un des auteurs français qui a peut-être magnifié le plus cette langue-là. Et donc chez Pellet, il y a aussi ce paradoxe, c'est-à-dire que ça tape contre l'esprit français, contre la France, et en même temps, ça le fait dans un amour éperdu de la langue française. Et c'est ça que je trouvais beau aussi dans cette proposition textuelle.
Et pourquoi avoir choisi de le jouer ? Parce que vous auriez pu uniquement le mettre en scène. Et pourquoi ce choix de le jouer vous-même ?
Ben, j'ai pas tout à fait choisi pour dire vrai. C'est-à-dire que au départ, je voulais juste mettre en scène le texte. Je m'étais dit que j'engagerais un acteur mettant en scène ou un auteur mettant en scène. J'avais pensé à Hubert Collat d'ailleurs. Et puis quand j'ai été discuter avec Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du Rond-Point qui a produit le spectacle à Paris, il m'a dit on le fait si c'est toi qui le joues. Alors au départ je savais pas comment le prendre. J'ai flatté, bon, voilà, c'est toujours bien. et j'ai compris après. Je pense que c'est parce que comme moi-même je suis une espèce de figure théâtrale française, je dirais, étant depuis 20 ans dans ce métier.
J'allais dire dans le circuit.
Dans le circuit, absolument. Je pense que pour Rib, et il a sans doute raison, ça crée une espèce de profondeur, de deuxième regard possible pour le spectateur qui peut entrer dans le spectacle de diverses manières. Donc voilà, après c'est un boulot de dingue comme acteur parce que c'est un texte extrêmement difficile à mémoriser. C'est une véritable performance physique, je dirais, parce que c'est 1h20 le personnage devient fou petit à petit. Donc il y a un enjeu physique assez fort. Donc voilà, je dis pas que j'y suis allé à reculons, mais bref, c'était au début, je me suis pas dit je vais jouer ce texte là, c'est formidable.
C'est un challenge quand même.
Voilà.
Et vous avez fait aussi un gros travail, enfin il m'a semblé, sur la diction, sur la prononciation. On voit que vous jouez avec les allitérations, les répétitions de consonnes, etc. Ça se sent beaucoup.
C'était important dans la mesure où je me disais qu'il fallait faire entendre l'amour de la langue française. C'est-à-dire que comme le texte tape terriblement sur la France, il fallait aussi que cet homme qui... C'est un cri désespéré, en fait. Hein, c'est-à-dire, il y a à un moment donné dans le texte, il dit pour aimer vraiment la France, théoriquement, il faudrait débarrasser la France de l'esprit français et des Français eux-mêmes. Et à ce moment-là, on pourrait aimer la France éperdument. Donc, en m'attachant le plus possible comme ça, effectivement, à la langue et à la précision de chaque sonorité, c'était une manière comme ça d'affirmer cet amour de quelque chose de français malgré tout qu'il y a dans le texte. Il y a cette forme de détestation et en même temps d'amour fou.
Oui, parce que aussi, donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette prose qui, enfin, on a l'impression que toutes ces répétitions, ça roule comme des vagues et ça suit beaucoup, en fait, le personnage qui donc monte dans sa folie. Alors, il y a des vagues violentes, hein, et puis il y a des moments qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereins ou beaucoup plus tristes, hein, nostalgiques, quand il parle de cette amie qui est morte. Et du coup, je me disais, comment est-ce que ça a été travaillé par épisode.
On a travaillé beaucoup sur le rythme. Quand il y a un acteur seul en scène, une des choses les plus importantes, c'est de trouver la rythmique juste, les ruptures de rythme. Comment est-ce que tout d'un coup on arrive à faire apparaître le relief du texte, finalement, comme le relief d'un paysage. Donc, un des enjeux principaux, c'était la question du rythme. Par exemple, dans un premier temps de travail, on avait fait quelque chose qui était beaucoup plus posé et on s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste parce que le texte devenait didactique, c'est-à-dire que ça devenait une démonstration, etc. Et il nous semblait qu'il fallait donner cette espèce d'enjeu, c'est une logorée aussi, c'est-à-dire ce type à la toute fin dit « il ne faut pas que je m'arrête de penser, c'est la seule chose qu'il me reste ». Donc c'est penser, donc penser, parler pour rester vivant. Et on peut se dire que si ce type s'arrête tout d'un coup de penser et de parler, il meurt. Donc il fallait donner comme ça quelque chose de cette fièvre-là, tout en gardant au maximum l'intelligibilité du mouvement de la pensée, parce que c'est donc une pensée qui tourne en rond aussi, qui est par cercle concentrique comme ça. C'est-à-dire, il y a effectivement énormément de répétitions. C'est un texte drôle aussi. Ça, c'était aussi très important. C'est-à-dire qu'il y a une jubilation. Il y a toute une partie du spectacle, par exemple, où il dénonce la lourdeur de la cuisine du terroir français. et donc tout d'un coup il y a ce plat qu'il est obligé de manger qui est la saucisse de cheval sauce vinaigrette, et donc il répète la saucisse de cheval sauce vinaigrette qu'il est obligé d'abord de déguster puis d'ingérer. Donc il y a aussi ça qui me plaisait beaucoup dans ce texte, c'est effectivement un mélange entre une grande tristesse, parce qu'il y a une tristesse profonde, et puis une espèce de méchanceté joyeuse. Et c'est aussi un formidable portraitiste, parce que dans ce texte, il y a comme ça une série de portraits de personnages. Esther Cohen, effectivement, cette femme qui s'est suicidée, mais aussi Moritz Gutenberg, ce professeur de philosophie allemand qui l'a sauvé.
Marie-Jo
et le Didier Palanquet, qui sont des espèces de Thénardier qui tiennent le théâtre français. Donc, ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'était ce talent de portraitiste qu'il a. Il faut dire aussi que Christophe Pelet sera plusieurs fois mis à l'affiche du théâtre des 13 vents dans les années qui viennent, puisqu'il va y avoir deux autres textes de lui qui vont être présentés.
C'est un auteur fétiche de Jean-Marie Besson.
Voilà.
Dis-toi, tu voulais dire quelque chose. Moi, c'est le fait que c'est un exilé. C'est une chose rare. Moi, je suis portugais, donc pour moi, c'est tout à fait normal. Chez nous, quand on veut faire des choses, d'abord, on part à l'étranger et après, on peut faire quelque chose. Et évidemment, quand on revient, on n'est pas du tout reconnu parce que, je parle pas de moi, je dis première personne, mais ça n'a aucun rapport, ce n'est pas autobiographique. Mais tous les grands portugais, que ce soit même contemporains, Manuel de Oliveira, etc., notre prix Nobel, tous sont partis. Parce que et quand ils reviennent, évidemment, ils sont pas du tout reconnus sur place, mais ça leur donne ce regard éloigné, comme dirait Lévi-Strauss, sur la société. Et donc, ils peuvent taper comme des sourds sur tout ce qu'ils voient et sur tout ce qu'ils ont vécu, mais toujours avec cette douleur, parce qu'ils sont profondément portugais. Ils ont jamais cessé, c'est les Portugais qui les accusent d'être des estrangeirados, hein, des étrangers. Et là, c'est quelque chose que je trouve assez original dans le contexte français, d'avoir quelqu'un qui est dans cette position. Il n'a pas quitté la France, tout un tas de gens comme ça, d'enragés français, ils sont quand même restés ici, ils sont jamais partis. Et là, c'est déjà un point que je trouve intéressant. Parce que quand, au bout d'un moment, je disais, oui, mais il parle de choses, et puis, mais quand même, c'est pas que la France. L'esprit français, c'est pas un mal français, en fait. C'est un mal général. S'il va à Lisbonne, il va trouver la même chose, à Madrid aussi, alors n'en parlons pas à Barcelone. peut-être la ville la plus française du monde, c'est Barcelone, à ce niveau-là, au niveau de l'esprit français. Et ça m'a intéressé. Après, c'est votre intérêt pour les écorchés vifs. Hein, on parlait tout à l'heure de Schwab. Hein, vous avez monté Schwab, vous avez même fait traduire Schwab. Et puis après Pasolini, je crois qu'il y a une lignée quand même dans les choix, non, là?
Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que alors moi je pense jamais en termes de, quand je cherche un auteur, est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est italien, est-ce qu'il est portugais. C'est le coup de cœur avant toute chose. Mais c'est vrai que, alors pour revenir sur la première partie de ce que vous disiez, chez Pelet, ce qu'il y a de singulier, c'est qu'effectivement, évidemment cet auteur donc qui est au centre du texte, c'est lui, c'est Christophe Pelet, et Christophe Pelet a quitté la France donc pour aller vivre à Berlin. Il vit la plupart du temps à Berlin, et donc là il raconte cette conférence qu'il revient faire sur le territoire français, avec l'envie de repartir immédiatement à Berlin. On pourrait rapprocher aussi de Marianne Diaye, qui est partie à Berlin et qui, dont on a beaucoup parlé, parce que tout d'un coup, voilà, elle s'exilait pour fuir cette France-là, la France dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et sur oui, je crois que ce que j'aime, c'est en tout cas, vous parliez d'écorcher, tous ces auteurs qui ne sont dans aucune incertitude, qui sont dans une forme d'intranquillité. Voilà, on pourrait parler de Pessoa, si vous... mais le c'est, je pense, ce qui me plaît, c'est les gens en déplacement. Pasolini, bien sûr que Pasolini est profondément italien, mais Pasolini, il était adossé à beaucoup plus large que l'Italie. C'est ça qui fait sa force. Et Schwab aussi. Alors, Werner Schwab, auteur autrichien, forme de disciple de Thomas Bernhard. En tout cas, ce sont des gens qui portent en eux des cris, des endroits d'insatisfaction profonde sur leur société, la manière dont la société finalement se racornit de l'intérieur. Donc ça, effectivement, je pense que c'est un point commun. En même temps, c'est vrai que quand je choisis un texte, je le choisis souvent plus pour sa valeur littéraire, finalement. Mmh. C'est la langue, avant tout, qui me guide, plus que le propos. Par exemple, là, je ne me suis pas dit « j'ai envie de monter une pièce qui parle du théâtre, des problèmes du théâtre aujourd'hui, etc. » J'ai été d'abord saisi par la valeur littéraire du texte, et puis après, je me suis dit « bah oui, ce qui est brassé à l'intérieur est très important. » J'ai toujours cherché à séparer, finalement, mais... Moi, je suis quelqu'un d'assez engagé, je dirais, dans la vie. Et mes engagements sont des engagements à moi, dans un coin, je dirais. Et au théâtre, je sers avant tout la force littéraire d'un propos. Voilà.
Mais il parle de ça, quand même, du fait que l'esprit français, par exemple, quand il parle par rapport à l'Allemagne. Il répond à ma question dans le texte. L'esprit français, c'est pas un mal français, finalement.
Oui, disons que, en tout cas, il y a cette espèce de théorie qu'il développe, que moi je trouve très réjouissante dans le texte, qui est, à un moment donné, il dit « l'esprit français a contaminé l'esprit allemand et l'a conduit à ce coup de folie désastreux des Allemands au XXe siècle. » Alors, il remonte pour ça à Louis XIV. Il dit que Louis XIV est celui qui ordonna, on le sait peu d'ailleurs, le premier bombardement de civils en détruisant la ville de Mannheim. Et après, il dit que Napoléon, par ses pillages systématiques maquillés en guerre idéologique, a injecté aux Allemands le virus du nationalisme. Donc, il part de cette espèce de postulat que je trouve assez réjouissant, qui serait que c'est la France qui a injecté à l'Allemagne le virus du nationalisme. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais tout d'un coup, je trouve que la proposition est assez, assez réjouissante.
Je vais vous demander, si vous le voulez bien, un petit exercice difficile. Si vous le voulez bien, je sais que c'est difficile, si on pouvait avoir un petit extrait. Avant de faire une petite pause.
Je vais essayer de vous faire le début du texte, de tête. C'est pas l'heure, hein, c'est ce soir. Mais... Ce fut une erreur fatale d'accepter de donner cette conférence dans une entreprise culturelle de l'État français. Je ne l'avais pas fait depuis des années, depuis mon départ, ma fuite pour Berlin. Et maintenant, je suis de retour en France, je cours de théâtre en théâtre comme un poulet sans tête, et c'était à prévoir... Je fraye de nouveau avec cette société théâtrale française. En toute logique, cette attitude d'écervelée, courir de théâtre en théâtre, me jette au-devant d'une écervelée, la société théâtrale française. Je m'étais pourtant fait la promesse de ne plus jamais avoir commerce avec elle. Mais on revient sur le territoire français après une longue période, on se remet à peine de cet esprit français qui nous a empoisonné l'existence dès notre naissance, et à peine le pied posé sur le territoire français, on a aussitôt affaire avec l'État français. D'abord on ne se rend compte de rien, c'est une domination sournoise, puis peu à peu l'État français s'impose à nous et partant l'esprit français. On part en guerre contre cet État français empoissé d'esprit français qui nous annihile, détruit toute élévation, prend aux pauvres pour donner aux riches, bâillonne les êtres sensés pour promouvoir les imbéciles. On part en guerre contre cet État et cet esprit français et sur la lancée, dans le fol instinct de la révolte, on se précipite dans les théâtres. Voilà des lieux où souffle encore l'esprit, se dit-on. Des lieux où il nous est permis de réfléchir sur notre condition. Voilà des lieux, les théâtres, où l'on part en guerre contre la bêtise et la dangerosité de l'État français, se dit-on encore. Éloigné de la France, j'avais simplement oublié, depuis mon départ, ma fuite pour Berlin, que ces théâtres ne sont, somme toute, que des entreprises culturelles du territoire français affiliées à l'État français et empoissées d'esprit français.
Merci beaucoup.
C'est le début du texte. Hein.
Merci beaucoup. Ça donne envie. On va faire une petite pause parce qu'il y a un auteur, un homme de théâtre aussi, qui est cité abondamment dans le texte, c'est Antonin Artaud. Donc on va écouter la voix d'Antonin Artaud, un enregistrement de 1946, qui s'appelle Aliénation et magie noire.
Antonin Artaud.
Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort lente. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vide, ainsi fantastiquement disponible et vide aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'État appelé Bardo. Et il y a dans l'électrochoc un état flaque par lequel passe tout traumatisé et qui lui donne non plus à cet instant de connaître, mais d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du Bardo et le Bardo de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres et la vie a baissé d'un cran. Oh, je le répète, le Bardo, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi, artificiellement, la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néon qui n'a jamais profité à personne, et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait, depuis un certain point du temps. Lequel ? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants ?
Vendredi Théâtre sur Divergence et Faible 93.9 avec la voix de Antonin Artaud pour ce texte Aliénation et Magie Noire, un texte de enregistré en 1946. Nous recevons Stanislas Nordet pour parler du spectacle qui a lieu au 13 Vents, La Conférence. Alors, La Conférence, c'est l'histoire d'un homme qui parle de la société française. Justement, l'accueil qu'il y a eu dans les centres nationaux, quel accueil ça, il y a eu?
S'il y a eu. Il n'y a pas eu beaucoup d'accueil. Non, le spectacle a été créé à Paris, donc au Théâtre du Rond-Point, l'an dernier. Et le seul centre dramatique national, donc la seule grosse institution en France théâtrale qui a accepté d'accueillir le spectacle, pour le moment, c'est les 13 Vents à Montpellier. Les autres sont un petit peu frileux, on va dire.
Un petit peu timorés.
C'est pas lié au fait, je crois, que le spectacle serait mauvais ou je sais pas quoi. Il y a eu une très bonne presse, ça a très bien marché. C'est vraiment lié au fait que le propos dérange et puis le propos attaque frontalement, je dirais, les grosses institutions. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'au lieu d'entendre la charge aussi, c'est formidable d'avoir l'humour d'accueillir des spectacles qui comme ça vous remettent en question. Bah, je crois qu'il y a un peu une fâcherie ou une frilosité. Et l'année prochaine, le spectacle va tourner, mais il va plutôt tourner à l'étranger, pas tellement en France. Il va tourner en Suisse, en
c'est
Belgique,
bizarre.
Au Canada, mais pas beaucoup en France pour le moment.
Et en plus, au 13 Vents, je tiens quand même à le souligner, c'est un spectacle qui ouvre la saison.
Voilà,
c'est d'autant plus méritoire.
Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup fait rigoler. Je suis un vieil abonné depuis presque 30 ans à Télérama et voir Fabienne Pascoe adorer le spectacle, j'étais mort de rire.
Mais en tout cas ce qui est important, c'est dans ce texte, je trouve, c'est que ça commence à parler du théâtre. Alors on pourrait se dire tiens, ça ne concerne que les gens de théâtre, et puis très vite ça élargit à la société française, quoi. Il y a une charge très très violente contre l'éducation nationale française aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je trouve, qui il y a pas de tabou dans son écriture, et c'est ça qui me plaît. Je trouve que c'est un vrai bol d'air frais d'entendre ce texte-là. Donc voilà, mais pour le moment, effectivement, en France, les directeurs de théâtre sont un petit peu prudents face à ce...
Un petit peu timorés. Justement, ça pose aussi la question rapidement, la position d'artiste directeur aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas dans ce milieu une certaine frilosité qui serait un petit peu la conséquence d'une absence de politique culturelle?
Je dirais, moi je me méfie toujours des généralisations, hein. Donc ce qu'il y a dans le texte de Christophe Pellet, et c'est parce que c'est un texte, c'est aussi une fiction finalement, et il généralise, hein, il met tout à la poubelle, dans le même sac, tous les directeurs de centres dramatiques, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des gens formidables, des gens qui font formidablement bien leur boulot, etc., mais c'est vrai qu'il y a un danger dans tout type d'institutionnalisation de toute façon, et particulièrement en ce qui concerne l'art, art et institution, quasiment par définition, c'est antinomique. C'est-à-dire, l'art, il est là pour bousculer, pour déranger, pour faire peur, pour inquiéter. Et l'institution, elle est au contraire là, théoriquement, pour rassurer, pour installer, etc. Donc, par définition, des artistes dans une institution, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après, c'est tout le défi, je trouve, auquel on est confronté quand on est artiste et qu'on décide de prendre la tête d'une institution. Je pense que moi, qu'il faut bousculer, renverser des choses, quitte à mettre en danger l'institution. Moi, quand j'avais dirigé le théâtre Gérard Philippe à Saint-Nice, c'était véritablement ce que j'avais tenté de faire, c'est-à-dire tout d'un coup mettre en danger l'institution, c'est-à-dire la réinterroger, lui dire bah voilà, vous n'êtes pas assez ouvert aux populations qui sont autour de vous. Comment le faire? Bah, pour le faire, il faut plus de moyens. Donc voilà, il y avait des choses de ce type-là. Et je dirais aujourd'hui, la situation générale, je dirais des budgets de la culture en France n'est pas très bonne. Sans faire de pub pour les primaires, cet été, Martine Aubry a eu le mérite tout d'un coup de dire il faut plus d'argent dans la culture, ce qui est réel. Si on veut faire un vrai travail sur les publics, etc., ça coûte, parce qu'il faut tout d'un coup engager des artistes pour aller sur le terrain, pour tout ça. Donc ça n'est pas une chimère. Donc au moins, je trouve qu'aujourd'hui, le débat se repose. Parce qu'à une époque où aussi bien à gauche qu'à droite, tout le monde disait non, non, il n'y a pas besoin d'argent dans la culture, il y en a trop, etc. Et là, je trouve qu'en tout cas, le mérite qu'il y a eu cet été en Avignon des débats qu'il y a eu autour de cette primaire socialiste, et tout d'un coup, qu'on puisse réentendre une voix qui dit, bah si, il faut plus d'argent, parce que plus d'argent permet tout de même plus, et la culture, il me semble que, comme le disait Jean Villard, c'est aussi important que le gaz ou l'électricité, quoi. On a besoin de ça, sinon on meurt, quoi.
Et puis tout bête, puis c'est bêtement vite, bon Tito. Point de vue économique, ce qui est quand même
absolument
un plus oui. Indéfendable de la position contraire du coup. Oui.
Stanislas Nordet, merci de nous avoir accompagnés pour ce début de Vendredi Théâtre. Merci infiniment. Je rappelle que la conférence se joue jusqu'au 17 septembre. Donc ce soir, si je ne me trompe, c'est à 20h30 et demain c'est à 19h. Alors ce qui est assez satisfaisant, c'est que c'est, je crois, presque complet, si ce n'est complet.
Absolument. Voilà, il faut essayer d'appeler, j'en sais rien. Il y a des désistements de dernière minute.
Je suis très heureux.
Oui, oui. Il y en avait des personnes qui attendaient la dernière fois et puis ils ont réussi à entrer. Bon, donc... Essayez quand même.
On va se séparer, on parlait de la culture allemande aussi, on va se séparer avec Jean-Sébastien Bach, un extrait des variations Goldberg avec Scott Ross au clavecin. Merci beaucoup. Vendredi Théâtre 93.9 sur Divergence FM. Le retour de Vendredi Théâtre avec un deuxième plateau. Un plateau consacré au théâtre Jean Villard, puisqu'hier c'était la présentation de saison à Jean Villard. Et nous avons invité Luc Bremer, le directeur du théâtre. Bonjour.
Bonjour.
Julien Bouffier. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-François Guiret.
Bonjour.
Parle bien devant le micro, Jean-François. Alors, cette présentation de théâtre qui a eu lieu, donc, cette présentation de saison qui a eu lieu donc au théâtre Jean Villard hier, c'est une année qui est marquée en hommage aussi à Gabriel Monet.
Absolument. Gabriel Monet venait souvent nous rendre visite. Et on a beaucoup parlé théâtre avec lui. Et je trouve qu'il a gardé une éternelle jeunesse et surtout, il était au courant de tout ce qui se passait. Et il avait un avis. Et il l'émettait, cet avis. Donc c'est une grande force. Et voilà, on voulait lui rendre hommage et on lui a dédié la saison. Et même, je crois que je peux faire l'annonce maintenant.
Absolument, j'allais y venir.
La petite place devant le théâtre va être baptisée la place Gabriel Monet. Ce qui nous fera une adresse postale quand même intéressante. Théâtre Jean Villard, place Gabriel Monet. C'est joli.
Julien, tu l'avais un peu connu, Gabriel?
Je l'ai bien connu, ouais. Je l'ai bien connu puisqu'on a fait plusieurs spectacles ensemble. Puisque mon premier spectacle à Montpellier, il est venu voir, donc il y a déjà plus de 15 ans, et alors que voilà, il n'y avait pas de professionnel, mais lui il était là. Et puis il m'a écrit un mot, et ensuite on a correspondu, puis on s'est rencontrés, et puis donc il a été mon Doruy Gomez dans Hernani. Il a créé un texte avec moi, il était aussi la voix des Yeux Rouges, enfin on a souvent travaillé ensemble. Et c'est vrai que je le considérais un peu comme mon grand-père. C'est une figure comme ça, parce que c'était évidemment, voilà, c'était effectivement une personne qui restait là. Voilà. Parce que être là, ce qu'on essaie de faire chacun de nous, bah, il réussissait avec le temps qui passe à toujours être là, à toujours écouter les autres, à toujours échanger, et jamais dans une position de savant. Qui nous donnerait des leçons, mais non, nous poussant avec ces leçons à continuer à réfléchir, à questionner, comme il dit. Ouais.
C'était quelqu'un qui était à l'écoute.
Tout à fait, ouais. Très grande écoute.
Luc, donc cette présentation de saison, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le global de cette saison? Comment ça s'est passé aussi, la présentation hier?
Ah bah la présentation de saison s'est plutôt bien passée, mais je suis peut-être pas le mieux placé pour pour le dire. Non, on a fait une répétition générale catastrophique l'après-midi, donc
c'est bon signe.
C'est vrai que la première a été bonne. Cette saison, elle est placée sous un double signe, je dirais un signe de changement, de réorientation de la politique de programmation du théâtre. C'est pour ça aussi que j'ai demandé à Julien Bouffier de nous rejoindre.
Il y a eu un changement de statut aussi, si je me trompe.
Alors, il y a eu un changement de statut administratif qui a été un petit peu lourd à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on a présenté la saison au mois de septembre. Voilà, maintenant, les choses sont faites, sont posées. Et donc, on va pouvoir reparler aussi artistique, ce qui est une bonne chose. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Julien Bouffier de nous rejoindre en résidence au théâtre. D'une part parce que tout ce que Julien développe du point de vue des arts numériques et de la scène et que je trouve que Julien est arrivé à un équilibre. Alors la vidéo dans les spectacles, ça fait des années qu'on en voit. Mmh. On a beaucoup vu n'importe quoi.
C'est pas toujours pertinent, je dirais.
Parce qu'il fallait mettre absolument de l'image dans un spectacle. Et que je trouve que maintenant, on arrive justement à cet équilibre entre le texte, l'image et le jeu qui commence. Enfin, je pense que l'équilibre.
Mais comme on voit des corps pourris et des costumes pourris. Et je trouve que. Enfin, il ne faut pas non plus. C'est-à-dire que l'image, elle est là depuis longtemps. Il y a des gens qui essayent. Et moi, c'est ce que j'essaie de défendre dans Hybride, et on en parlera une autre fois. Mais c'est que pourquoi on est plus exigeant sur l'image que sur autre chose sur un plateau? Parce que on envoie des choses sur un plateau qui sont pas très adroites.
Alors, je pense qu'une des réponses, c'est que ce qu'on a vu pendant des années, c'était que l'image dominait très vite et le texte et le jeu. Et on ressortait d'un spectacle avec qu'une image, qui est une vue partielle du spectacle, et on avait oublié le reste. Ça, je trouve ça dommage.
C'est-à-dire que l'image parasitait.
L'image parasitait. Alors que là, maintenant, l'image fait partie. du spectacle. Et puis même l'image peut devenir l'objet même du spectacle théâtral, ce qui est peut-être aussi le paradoxe qui est enfin atteint, quoi.
Alors Julien, donc tu es en résidence avec la compagnie Adesso et Sempre, je ne me suis pas planté pour le prononcer. Mm-hmm. Et comment ça se passe cette résidence? Comment tu vas l'aborder? Il y a plein de choses qui sont en préparation.
Oui, bah nous, ça fait donc maintenant plusieurs résidences qu'on fait, hein, de la scène nationale de Sète jusqu'à, enfin même du théâtre de Clermont-Lérault, de la scène nationale de Sète, puis au théâtre des 13 vents, et enfin ici au théâtre Jean Villard. À chaque fois donc avec des interlocuteurs différents, avec des structures différentes. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette aventure-là, c'est que ce théâtre est dans un quartier et dans une ville. Et c'est ça qui est le point fort sur lequel j'ai envie de travailler, puisque donc sur les prochaines années, là, moi j'ai envie de travailler sur... Je travaille en ce moment sur Les Témoins, ce projet entre théâtre et actualité. Et donc, où je questionne, où j'interroge, où je vais interviewer des gens, je vais collecter de la parole et des points de vue. Donc évidemment, dans ce quartier, ça me plaît bien d'y aller et d'écouter. Voilà, ensuite on imagine plusieurs événements qui vont être liés à ça, le Café Babel dont on parlera, puisqu'en plus vous êtes concernés,
si tout
partenaires,
bien.
Inch'Allah, et puis l'aventure sensible, enfin toutes ces aventures. J'ai toujours essayé moi de profiter de ces résidences pour créer des rapports avec le public différents, c'est-à-dire que c'est ça, hein, c'est une résidence, c'est qu'on n'est pas là juste une page d'un programme, mais on est là sur tout le long. J'aime beaucoup d'ailleurs que le fait que Luc finalement m'ait invité sur le plateau pour la présentation de saison, je pense que c'était un geste fort, en tout cas visible, et donc symbolique. C'est ça pour moi, c'est comment on va réussir à travailler sur le public, non seulement pendant les moments où on va présenter nos spectacles, mais aussi en dehors.
Et au-delà, voilà. C'est-à-dire que... Alors, je ne sais pas comment il faut l'appeler maintenant, parce qu'il y a des, il y a des mots qui ont perdu leur sens, action culturelle, des choses comme ça. Et pourtant, je crois que c'est ce qui fait le sel de ce métier, c'est-à-dire que c'est quand même la notion du passeur et de mettre en présence à la fois un public et une scène et des artistes, et que c'est de là que tout part, finalement.
Alors le premier spectacle qu'il y aura dans cette saison, c'est un spectacle que tu as mis en scène, qui s'appelle Manifestement, et c'est un premier volet d'un triptyque qui va s'appeler Les Témoins, c'est ça?
C'est ça, ouais, tout à fait. Pareil, hein, là, c'était symbolique aussi qu'on soit le premier spectacle de la saison, et qui en plus pour nous c'est vraiment l'acte de départ, le top départ pour notre résidence, puisque donc le projet de résidence est vraiment autour des témoins, de ce projet des témoins, qui est un gros projet autour du théâtre à actualité, c'est-à-dire comment le théâtre peut rendre compte de l'actualité. Le théâtre est-il un média, hein, cette question que je développais dans Hybride et que je continuerai à développer.
Oui, j'allais dire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Voilà, on est en plein dedans depuis plusieurs années avec la compagnie, donc les deux sont totalement liés. Donc quand je parle, effectivement, Luc parle d'action culturelle, y a action dedans, donc ça me plaît, qu'il est complètement lié à notre projet artistique. C'est-à-dire que c'est pas... J'ai une question hier après la présentation de saison, mais il t'oblige pas à faire trop de trucs. Il y a toujours ce problème de résidence de se dire les contraintes. Je dis non, c'est moi qui m'oblige plutôt à faire des choses. Parce que ça fait partie totalement de mon projet artistique. Et manifestement, c'est ça. Manifestement, c'est comment écouter, être les oreilles du monde, là, et essayer de les retranscrire sur un plateau de théâtre. Enfin, sauf que là, on n'est pas sur un plateau pour le coup, puisqu'on jouera dans la cour de la Maison pour tous, puisque c'est justement un spectacle qui se joue en dehors, qui ne se joue pas sur le plateau du théâtre.
Et donc on peut peut-être parler de l'équipe qu'il y a dans la compagnie, on n'a pas encore parlé.
La compagnie, il y a 6 acteurs, hein. Y a toujours une équipe, pour moi c'est toujours un peu compliqué. Bon, il y a l'équipe administrative évidemment qui est extrêmement importante, hein, puisqu'elle soude tout ça.
Qu'on a un peu vu hier,
oui,
et qu'on peut citer.
Fatia Schlicht et Nathalie Karsenak.
Ceux qu'on ne voit jamais.
Ceux qu'on ne voit jamais, mais qui sont toujours là. Et puis ensuite, il y a cet équilibre en fait entre l'équipe technique technique et l'équipe des acteurs, qui est une même, vraiment une même chose. Et c'est toujours les mêmes qu'on revoit, hein, quand c'est Emmanuel Debechère au décor, que ce soit Laurent Rojol à la vidéo, que ce soit Christophe Mazet à la lumière, que ce soit Eric Guénou au son, c'est des gens qui m'accompagnent depuis très longtemps. Et puis les acteurs, c'est la même chose. C'est Claire Engel, avec qui j'étais au lycée, Vanessa Lyotet, voilà, qui est là depuis très longtemps aussi. Donc Fanny Rudel, qui, voilà, depuis Les Vivants et les Morts, il y a eu cette belle rencontre quand elle était comédienne chez Jean-Claude Fall, et avec qui maintenant on ne se quitte plus. Il y a Marc Bellet, évidemment.
Oui, bien sûr.
Bien que Marc ne soit pas dans cette partie-là, mais il sera dans les témoins. Il y a aussi Jean-Claude Fall, et il y a Nicolas Vallet, qui est un peu la dernière petite recrue, puisque c'est aussi celui qui fait Costa le Rouge. Voilà.
D'accord, dont on va parler tout à l'heure. Mmh. Alors manifestement, c'est donc
début octobre,
de 4-5-6 octobre.
Voilà. Alors, voilà, je précise aussi, puisque je peux l'annoncer, c'est que cette année, toutes les représentations du théâtre, toutes les représentations au théâtre auront lieu à 20h.
Ah oui, on a oublié de le penser.
On change de rythme, on abandonne le 19h et le 21h, tout est à 20h. Et je pense que, au vu de la réaction d'hier, c'est
oui,
plutôt
qui était
bien
très
reçu,
clair, hein, puisque quand vous avez annoncé ça, vous vous attendiez à ce que ça soit oh, etc. Ah
oui, donc, voilà. Donc j'ai fait dire au public avant oh, et donc il a dit ah après, c'est très bien.
Voilà. Deuxième spectacle qui sera représenté, ça sera donc une seule représentation le 7 octobre, c'est Monsieur Cobert, Philippe Cobert.
Philippe Cobert qui est un habitué. Voilà, qui est un habitué et qui nous revient avec un spectacle qui n'est pas de lui. Et il s'est emparé du texte d'André Benedetto, Urgent crier, sur 68 à Avignon, principalement. Et donc, c'est un texte d'une poésie rare. Et c'est un texte qui dit, oui, en gros, Avignon, bon, ça a été la révolution, on a cassé tous les tabous. Mais finalement, et c'est un texte qu'il a écrit, je crois, le 28 juillet 68, on s'est tous aussi érigés en censeurs de l'autre. Et je trouve que c'est ce qui est merveilleux chez Benedetto, c'est cette lucidité qui nous ramène toujours à notre propre incurie, et c'est pas mal. Donc là, Philippe est sur scène, il est accompagné de Jérémy Campagne à une guitare très électrique, et on se replonge avec aussi là des images dans des temps que certains ont connus, mais qui peuvent vraiment être vus par tous.
Alors, il n'y a qu'une seule représentation, donc il faut se dépêcher de réserver, parce que ça,
voilà,
ça risque d'être
complet. Voilà, et au vu du monde qu'il y avait ce matin devant le théâtre, il faut encore plus se dépêcher, probablement.
Alors, le spectacle suivant, en fait, c'est quatre spectacles.
C'est quatre spectacles, et j'ai dit hier soir à la présentation que c'est avec le comédien le plus contesté de la région.
Pourquoi contesté?
Comédien, c'est Daniel Villanova. Alors, avec Daniel Villanova, on a déjà beaucoup travaillé, et souvent travaillé, et sur Dario Fo en particulier. Mmh. Et puis, il avait créé au théâtre L'Hiver et le Printemps, et il y a 5 ou 6 ans, et on s'était toujours dit qu'un jour on ferait une intégrale. Et donc il donnera les 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et cette présentation donnera lieu à un Café Babel, qu'on va peut-être développer tout de suite. Hein. Le Café Babel, c'est parler du théâtre et de l'actualité du théâtre. Donc ça se passera au bar du théâtre, sous une forme d'émission radiophonique, peut-être retransmise. Voilà.
Tout se passe
et on fera
bien.
Un Café Babel autour du rire de résistance. C'est-à-dire qu'on va voir un peu comment est-ce que les trublions sont reçus aujourd'hui. Est-ce qu'on supporte encore les Stéphane Guyon, les Didier Porte, apparemment beaucoup moins qu'avant, quoi.
On va revenir un tout petit peu sur le Café Babel, puisqu'il en est question. Donc c'est toujours des émissions, je reviens à ce que je connais, des émissions qui sont en rapport avec un spectacle. Il y a 6 rendez-vous dans
l'année.
Et toujours en rapport avec un spectacle.
Voilà. Avec une série de chroniques, de regards,
qui sont plus que ça, qui sont plus effectivement qu'un rendez-vous à côté d'un spectacle, puisque
c'est une œuvre en elle-même. Enfin, on va essayer d'en faire.
On va essayer d'en faire une vraie émission, effectivement, qui puisse intéresser les gens, même indépendamment du spectacle, s'ils l'ont pas vu ou s'ils peuvent pas le voir, je ne sais pas. Mais qu'elle raconte cette émission et le théâtre et le monde, et qu'on essaye de à chaque fois donner. Pour moi, c'est vraiment un des outils qui va et servir à rencontrer le public. Et aussi à former l'œuvre des témoins qu'on va faire ensuite. Donc, je sais que voilà, je vais faire des interviews de gens qui sont, je parle en Égypte la semaine prochaine avec des là-dessus, et puis plein d'autres gens qu'on invite, des journalistes, des écrivains qui écriront des choses spécialement pour ça, tout ça.
Et les piliers de ces cafés Babel, c'est toi, c'est Monsieur Bremer, c'est
voilà. Et Claudine Moïse qui est sociolinguiste avec qui on travaille d'autre part sur une recherche autour de la langue dont on parlera aussi.
Donc, si rendez-vous au théâtre et peut-être à la radio, si tout se passe bien. Donc, la première, c'est le 14 octobre, si je ne dis pas de bêtises.
Alors,
de mémoire.
17, je crois. C'est le mardi 18 octobre,
et c'est juste 18.
18h. Voilà. C'est ouvert au public.
Le 14, c'est l'aventure sensible.
Voilà.
Maintenant, je vais me tourner vers Jean-François, qui reste silencieux dans son coin pour l'instant, puisqu'il n'y a pas que du théâtre, pas seulement du théâtre à Jean Vidard, il y a aussi de la chanson, de la musique, des spectacles. Et le premier invité, le premier concert, c'est quelqu'un qui me tient, moi, particulièrement à cœur, que je suis depuis ses débuts, depuis qu'il chantait « Il fallait chercher le garçon », c'est Daniel Darc.
Oui, voilà, c'est Daniel Darc. Nous, on est très excités à l'idée de le recevoir. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le proposer dans la programmation de Tête Jean Villard. Mais c'est vrai qu'il a plutôt, tout dans un esprit rock'n'roll, il est plus habitué aux salles de concert rock. Mm-hmm. Et puis là, je suis allé le voir au Palace, hein, puisque j'ai appris qu'il avait une formule acoustique. Et là, c'était le moment ou jamais de le programmer. Ça a pu se faire. Donc, il viendra, son répertoire, une grande partie de ses deux derniers albums, donc son Crève-Cœur quand il est...
Qui a été quand même un grand tournant pour lui, parce qu'il a eu un passage à vide, pour employer un euphémisme, un long passage à vide.
On peut parler de renaissance avec Crève-Cœur, et puis après Amour Suprême, qui a confirmé le succès de ce retour avec Crève-Cœur, grâce à Frédéric Lau, donc le compositeur qui est venu le chercher, et puis le remotiver pour qu'il se remette à écrire, puisqu'il s'était quand même mis pas mal en pause. Et donc là, c'est des arrangements classiques, donc formule acoustique, avec un piano et un quart de queue et un violoncelle. Voilà, c'est sublime, et puis c'est toute sa force.
Mais en même temps, dans ses derniers albums, moi je trouvais qu'il y a un aspect beaucoup plus intimiste, de plus en plus intimiste, qui convient tout à fait à une forme plus acoustique. Mm-hmm. Enfin, on va faire une petite pause justement avec Daniel Darc, et j'ai choisi justement un extrait de Crève-Cœur, Je me souviens, je me rappelle.
S'étant ces vieux chers à mon cœur, le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Très doucement jouait le vent, alors elle me semblait si belle, alors moi j'avais tout le temps. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me rappelle une croix trop lourde pour moi, un bois qui pèse et m'écartèle, pourtant comme jamais cette croix. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. s'étant ces lieux chers à mon cœur. Le jour baissé, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Je me souviens, je me rappelle très doucement. Le vent jouait, alors elle me semblait si belle. Et loin le temps, je l'avais, oui. Je me souviens, je me rappelle. Une croix trop lourde pour moi. Un bois qui pèse et m'écartèle. Et pourtant, je l'aimais, cette croix. Je me souviens, je me rappelle. Je dissimule dans le silence mes sentiments, mes espérances. Qu'ils montent et plongent sans bruit. Étoiles brillant dans la nuit. Étoiles brillant encore dans la nuit. Dans la nuit, dans la nuit.
Vendredi théâtre sur Divergence FM avec la belle voix de Daniel Darc, je me souviens, je me rappelle. Et nous parlons de la saison, de la présentation de saison qui a eu lieu hier au théâtre Jean Villard. Je suis avec Luc Brémer, Julien Bouffier et Jean-François Guiret. Alors maintenant nous en sommes, si je ne me trompe, au mois de novembre déjà.
Et oui.
Et avec quelque chose qui rejoint quelque part la radio et qui m'interpelle.
Absolument. Et c'est donc Instant Critique, mise en scène par François Morel, lui aussi un habitué du théâtre. François Morel s'est emparé des textes de... Enfin, plutôt, il a retrouvé les bandes de l'émission Le Masque et la Plume, du temps de Jean-Louis Bory et Georges Charansol, qui se livraient à des joutes verbales qui sont restées très célèbres. Et donc il a transcrit ces bandes et il a monté un spectacle autour de ces critiques théâtrales des années 60-70. Et c'est d'une fraîcheur et d'une... Enfin, on sentait quand même que c'était là des gens de conviction, mmh. Et qui allaient souvent jusqu'à la mauvaise foi d'ailleurs.
C'est ça qui était drôle.
Pour défendre.
C'est ça qui était drôle.
Exactement. Et donc la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir vu les films qui sont critiqués donc, dans ce spectacle ? D'abord, je ne livrerai pas quels sont les films qui sont critiqués. Et ensuite, non, je pense qu'il faut vraiment y aller pour le plaisir du verbe.
Pour l'ajout oratoire.
C'est vraiment le plaisir du verbe et de l'excellence de la critique, hein, mm-hmm. De l'argumentaire, des choses comme ça. Et puis par contre, on a beaucoup de plaisir à voir les films après avoir vu le spectacle et après avoir entendu justement les critiques des uns et des autres. Voilà, c'était une joute frontale magnifique qui montait crescendo.
Et en même temps, c'est quand même un grand moment de la radio. Je crois que c'est l'une des plus vieilles émissions de France Inter. Et, putain, et moi, j'écoutais ça quand j'étais dans les années 70.
Absolument.
Et c'était le rendez-vous.
Sur les premiers transistors.
Voilà. Et donc, ça, j'attends beaucoup de ce spectacle, puisque moi, j'avais relu aussi, il n'y a pas très longtemps, il était critique au Nouvel Obs, Jean-Louis mm-hmm. Bory. Et j'avais relu les critiques qui étaient sorties en volume il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il est tout à fait pertinent. Et il défendait un cinéma que personne d'autre pratiquement ne défendait.
Qui était souvent descendu, justement, par le reste de la critique. Quoi.
Voilà. Par Charansol.
D'où la force aussi de conviction que Bory avait acquis en trouvant toutes les entrées possibles pour dire « mais là, vous vous trompez, ça c'est l'avenir, la nouvelle vague, là, c'est superbe.
Ouais, » il y avait quand même un antagonisme, une complicité dans l'antagonisme.
Alors,
je dirais.
Voilà, on a essayé de retrouver des gens, enfin, François Morel a essayé de retrouver des gens qui ont connu et les deux protagonistes et... En fait, non, ils se voyaient pas tellement en dehors de l'émission. Hein. Ils étaient complices mm-hmm. dans l'émission, et puis après cette surenchère qui montait et qui justement donnait la saveur.
Et si je me souviens bien, c'était François-Régis Bastide qui devait orchestrer l'ensemble.
Qui était le meneur de débat.
On va passer à Costa le Rouge, et là je me retourne vers Julien. Donc c'est un spectacle que tu as mis en scène, que tu vas mettre en scène.
Que j'ai mis en scène. Ouais.
Que tu as mis en scène.
Qu'on a créé l'année dernière, ouais, qu'on a créé en janvier. Donc c'est quelque chose d'assez particulier puisque c'est un texte, Costa le Rouge, qui a été commandé par le département de la Seine-Saint-Denis et 5 théâtres de Seine-Saint-Denis qui sont regroupés pour demander à un auteur, Sylvain Levet, d'écrire un texte pour le tout public. Je ne sais plus comment on dit, moi. Comment on dit, Luc?
Recommander en famille.
Recommander en famille. Voilà, merci, Julie.
C'est joliment dit.
Et donc, et ensuite, ils ont fait appel à moi. Ils m'ont commandé la mise en scène de ce texte. Enfin, ils m'ont donné ce texte. Ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse? Et voilà. Et il se trouvait que ce texte recouvrait énormément de choses qui m'intéressent. En particulier ce travail sur la transmission, sur comment on passe à ses enfants, comment on... Mais c'est pas seulement qu'à ses enfants, parce qu'ensuite nous on fait tout ce travail, Luc. Ce travail de passer aussi quelques valeurs par le théâtre, et comment ce petit garçon Costa va réussir à se construire plus avec la voix de son grand-père qu'avec la voix de son papa. Et donc c'est un Costa, un rouge, tout rouge. Donc évidemment, ça me plaît bien cette couleur. J'aime beaucoup cette couleur. Pas parce que seulement c'est le rideau du théâtre.
Il y a une réflexion aussi sur le réel et le virtuel, c'est ça aussi. Vous avez travaillé sur cette idée-là.
Ouais, on a travaillé là-dessus sur. C'est un spectacle aussi. Donc c'était commandé comme un spectacle, donc oui. Recommandé en famille. Donc on a fait comme ça, qu'on a fait pour ça, qu'on a joué devant des classes de CE2, de CM1, de CM2, de 6e, et puis des adultes. Et il y a évidemment tout de suite, quand tu travailles pour aussi un public enfant, oui. Évidemment tu poses la question de la fiction et de la réalité. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est la chose que tu regardes en face de toi? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est un acteur? Et donc on s'est amusé à jouer là-dessus. C'est comment aussi un enfant se construit par des fictions, par des histoires. Et ces histoires, elles peuvent, voilà, par l'imaginaire, ces histoires, elles peuvent être réelles, elles peuvent être fictives. Et donc on a essayé de développer ça, évidemment, par l'image, qui est quand même un de mes outils privilégiés. Et puis avec trois magnifiques acteurs, donc avec Nicolas, dont j'ai parlé tout à l'heure, Nicolas Vallée qui fait Costa. Mais aussi avec donc Jean-Claude Fall en grand-père, et voilà, j'ai trouvé un grand-père, mais là je pense ça lui ferait pas plaisir, donc je vais dire un père de...
j'allais poser la question.
Non, il remplace pas Gabriel Monet, mais en tout cas c'est voilà, j'ai rencontré Jean-Claude pendant la résidence évidemment au théâtre des 13 vents. Il a été mon Lorquin sur Les Vivants et les Morts, et depuis voilà.
Ça avait été une résidence très riche.
Ouais, très riche. Très riche. C'est un homme extraordinaire. Et là, dans le grand-père, il est juste fabuleux. Enfin, moi, il me fait pleurer. Et donc Rachid Akbal, qui joue le père, et qui était avec qui j'avais travaillé sur Alger Terminal 2, qu'on avait proposé au Festival Hybride au Théâtre Jean Villard. Absolument. L'année dernière.
Il y aura donc aussi un Café Babel autour de Costa le Rouge sur justement la mémoire et la transmission.
Et donc ce qui est joli, hein, excuse-moi Luc, c'est que d'une part c'est le premier spectacle qui est coproduit par le Théâtre Jean Villard aussi. Mmh. C'est aussi au départ de ça que s'est fait notre résidence. Et puis il se trouve que le lieu de la situation de la pièce de Costa le Rouge se passe dans un immeuble, enfin dans un appartement, mais un appartement qui avant était une ferme. Et quand on sait effectivement l'histoire du Théâtre Jean Villard, qui était elle une ferme aussi au milieu de rien et qui s'est trouvée entourée d'immeubles, voilà, ça me plaisait bien cette histoire.
Alors le spectacle suivant, moi, m'interpelle, puisque c'est un spectacle de cirque. A priori, le cirque, c'est pas trop mon truc, moi. Il s'agit de Carnet d'une voleuse, et c'est en fait la rencontre du cirque et de la littérature.
Absolument.
Autour de Jean Genet. Alors là, ça m'interpelle complètement.
Alors, Carnet d'une voleuse, c'est... D'abord, il faut recontextualiser la chose. On va participer à une semaine du cirque à l'université. L'université crée un symposium d'une semaine avec des spectacles, des conférences, des réunions autour du cirque. Donc, on s'associe à cette opération. Ça s'appellera une semaine de cirque à l'université. Et donc on a travaillé avec Guy Piriot et le Pôle Cirque autour d'un spectacle qui vient à Jean Villard. Effectivement, c'est la rencontre, et c'est le thème d'ailleurs de la semaine cirque, c'est la rencontre du cirque et de la littérature.
C'est pas courant, ça.
C'est pas courant, et et d'ailleurs c'est pas étonnant non plus que ce soit une clown qui incarne ça, parce que la clown parle beaucoup plus que l'acrobate, par exemple. Et elle s'est inspirée donc des carnets de Jean Genet, et elle a essayé de délayer de façon clownesque ce texte qui est quand même très très prenant de Genet. Voilà, moi j'attends beaucoup de ce spectacle, et elle est accompagnée par un musicien violoniste qui va accompagner ce spectacle. Elle est surtout sur un lit en fer, mm-hmm, qui va devenir absolument toutes les situations de l'incarcération.
Voilà, donc je suis assez curieux parce que le langage de Genet, c'est quand même un langage assez exigeant quand même. Donc voilà, donc je suis curieux de voir ce
spectacle. Qu'elle a à la fois détourné et qu'elle a remis dans son contexte.
Mais l'an dernier, il y avait eu aussi l'Astico de Shakespeare, non, qui partait un petit peu avec l'idée du clown et,
ah oui, c'est vrai,
et de textes littéraires aussi, qui étaient très bien.
Oui, oui, qu'on avait reçu ici, je me souviens, effectivement.
Ce sont on peut appeler ça des détournements, retournements. Mm-hmm.
Bah, on est très curieux. Le cabaret des vanités.
Alors, le cabaret des vanités, c'est un spectacle que j'ai eu l'occasion de voir un dimanche après-midi. Et c'est autour de la vanité. Donc la vanité, un peu tout ce qui est vanité, peut-être ça donnait le mot vain aussi. Ça commence assez fort par une interview de François Pinault et de Paris Hilton. Et c'est quand même très, très intéressant. On voit ces gens... milliardaires débordant de tout, achetant tout, et n'ayant qu'une obsession, c'est la peur de la mort, finalement. Puisque dans le discours, toujours revient cette peur de la mort. Et effectivement, ça pose la question du consumérisme, des personnes qui amassent, des personnes qui thésaurisent, et qui, au fond, disent ça sert à rien, parce que finalement, on est toujours rejoint par la Camargue. Voilà, alors après, c'est complètement déjanté, vraiment, ça part dans tous les sens. Il y a 8 comédiens amateurs chaque soir qui viennent aussi participer à ce spectacle. Et le groupe Incognito, qui est un collectif, a cette particularité, c'est ils sont tous issus du TNS de Strasbourg, et ils ont fait chacun une carrière à eux. Et 2 mois par an, à peu près, ils se retrouvent ensemble, donc c'est très joyeux, c'est très libre, c'est très... et on sent qu'ils sont vraiment contents de jouer ensemble. C'est un plus, je trouve, pour ce spectacle. Voilà.
On va faire un petit bond dans le temps, parce que je vois que l'heure tourne. Je vais vous libérer à moins le quart, comme je vous l'avais promis. Avec une deuxième respiration musicale, avec Daphné. Daphné, là, je me retourne à nouveau vers Jean-François. Tu peux nous dire un petit mot de Daphné, que je connais très peu, moi.
Alors un petit mot de Daphné. Donc Daphné, on peut dire que donc c'est son 3e album qui est sorti en février, qui s'appelle Bleu Venise. Sa particularité, c'est de travailler ou de s'inspirer, de puiser son inspiration dans la vibration des couleurs, comme le porte le titre de ses albums, puisque le premier c'était Émeraude, après il y a eu Carmine, et ensuite donc celui-ci à Bleu Venise. Elle a eu le prix Constantin en 2007 pour notamment l'album Carmine. Son histoire, très rapidement, elle est allée en concert de Benjamin Biolay. En fait, ça a commencé comme ça. Elle a laissé sa maquette. Et puis, Benjamin Biolay a eu un petit coup de cœur. Et voilà, elle a coopté dans sa maison de disques. Et l'histoire a commencé comme ça. Voilà, mais elle écrit après depuis très longtemps, Daphné. Et voilà, c'est très beau, c'est très raffiné, c'est très classieux.
Julie, tu adores, toi.
Oui, oui, moi, j'adore particulièrement. C'est une jeune femme avec une voix un peu sibylline qui sur scène, ensorcelle. Enfin, je veux dire, moi, j'étais complètement... Alors, elle ensorcelle et en même temps, c'est tout en douceur. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et vraiment, c'est à découvrir, c'est plein d'émotions. Elle a des textes très, très poétiques. Très touchant.
Ben on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ?
Et on pourrait dire aussi que c'est cet album-là, l'éloge de la lenteur. Quoi. Donc elle est vraiment à contre-courant aussi d'une sorte de frénésie ambiante. Et le disque, donc le morceau que je vous ai choisi, qui est extrait de ce dernier album, Bleu Venise, s'appelle « L'homme à la peau musicale ».
Avait ses yeux de tigre, n'est pas non plus lanceur de couteau. C'est l'homme à la peau musicale du cirque d'or de Lady Warhol. Ses yeux font oh, ah la 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 la, oh, ah ah la la. Ses mains font oh, ah ah la la la, ah la la la, oh, ah ah la la. Sa bouche fait oh, ah la 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 la, ah la la la, oh, ah ah la la la. Qu'est-ce qui fait courir les femmes? C'est le désir véritable. Qu'est-ce qui nous fait courir en larmes? C'est le frisson sidéral. Qui parle le désir est la plus rare de toutes les potions. Et mes yeux font ouh, ah la 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 la, ouh, ah la 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 la. Ma bouche fait ouh, ah la 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 la, ouh, ah la la la. Mes mains font ouh, ah la 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 la.
Vendredi Théâtre sur Divergence FM, on vient d'entendre Daphné. Mais c'est la dernière ligne droite, il nous reste quelques minutes. Je reçois l'équipe du Théâtre Jean Villard pour une petite présentation de saison. Je vais vous laisser très vite, parce que je sais que vous avez d'autres rendez-vous. Jean-François, tu voulais nous parler d'un spectacle rapidement qui s'appelle Chanson à bretelles.
La Chanson à bretelles qui réunit en fait 7 accordéonistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Ils sont assez jeunes, ils vont donner un coup de jeune justement à cet instrument, bien que historiquement ça soit, comme le rappelait Coco hier, parmi les instruments les plus récents.
Absolument.
C'est un accordéon qui est assimilé à un peu qui a pris un coup de vieux dans l'esprit, ou qui est assimilé à quelque chose d'un peu musette, un peu rétro, avec un charme désuet, voilà. Et donc ils sont réunis, ils proposent un vrai spectacle en croisant leurs univers, puisque chacun a son propre répertoire. Ils ont décidé de se réunir voilà autour de ce projet, y compris pour se donner une visibilité et puis pour aussi rendre à l'accordéon ses lettres de noblesse, quoi, et montrer qu'il est capable aussi de décoller, d'être aussi un petit peu plus actuel, et voilà, à travers des jeunes comme ça qui s'en emparent. Voilà.
Il me reste à vous remercier parce que je sais que vous êtes pressé. Donc merci Luc Bremer, merci Julien Bouffier, merci Jean-François Guiret.
Merci beaucoup.
On vous recevra à nouveau bien sûr pour parler de l'actualité du Théâtre Jean Villard.
Merci
à vous.
Merci.
Et on va
merci.
Écouter quelqu'un qui va être au programme, c'est Brigitte Fontaine, comme à la radio.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien. Rien que de la musique, ce ne sera rien, rien que des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur. Ce sera tout à fait radio. milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira « Elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce ». À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage, sous son lit, et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail.
Et oui, c'est un crime d'interrompre Brigitte Fontaine. C'est comme à la radio. Je vous rappelle que vous êtes sur Vendredi Théâtre. Vendredi Théâtre, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité théâtrale. Eh bien, on va parler un petit peu de cette émission, puisque j'ai une nouvelle équipe, une équipe qui est en formation aussi, puisque donc Yves Curcan est parti sur les cieux de Strasbourg pour étudier la vie culturelle là-bas. Et donc, je suis avec Julie Cadillac.
Voilà, oui, tout à fait.
Voilà, ça me fait très plaisir que tu incorpores l'équipe. C'est vrai qu'on se voyait très, très régulièrement après presque toutes les
tout le temps.
Dans tous les théâtres. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Est-ce que tu peux te présenter? Tu travailles, toi, à BSC?
Alors, voilà, donc...
BSC.
BSC News, voilà. Donc, moi, je travaille pour le bscnews.fr, qui est un magazine littéraire et culturel sur le net, qui est aussi un site, voilà, qui est approvisionné régulièrement. Et que donc moi, notamment en théâtre, j'approvisionne régulièrement.
Il faut parler bien devant
voilà.
le micro.
Oui, voilà. Il faut que je fasse l'habitude. Voilà. Donc après, c'est un site et un magazine qui évoque l'actualité culturelle. Donc ça peut aller de... Donc ça passe... Au départ, ça a commencé avec la littérature générale et puis maintenant, on s'étend à l'illustration, à la bande dessinée, au théâtre, aux arts et aux expos, etc. Voilà. Donc... Voilà.
C'est une très bonne revue, Tito. Toi, tu la
oui,
reçois.
Moi, je la reçois par mail.
Oui, elle se reçoit par mail. Elle n'est pas en papier. Mais donc voilà, le dernier numéro est sorti hier soir.
Il y a quoi au sommaire? Qu'est-ce que tu as fait?
Qu'est-ce
dans
qu'il
numéro
y a au sommaire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'illustration. J'ai fait l'interview de trois illustrateurs, deux illustrateurs de Los Angeles, un qui s'appelle Edwin Ushiro et d'origine hawaïenne, et l'autre donc qui s'appelle Kent Williams et qui est du 5 au 22 octobre à peu près sera exposé à la galerie Maguen, une grande galerie à Paris, voilà. Et puis j'ai interviewé aussi un illustrateur qui s'appelle Eric Scala, qui est français, voilà, qui fait beaucoup de caricatures. Qu'est-ce que j'ai fait après des chroniques?
C'est pas dans ce numéro-là que tu avais interviewé Christophe Pelet?
Et alors effectivement, j'y venais. J'ai interviewé également Christophe Pelet, qui est l'auteur de la conférence que joue en ce moment Stanislas Nordet.
Il donne envie d'aller le voir. Il donne vraiment.
Voilà, qui donne envie d'aller le voir, qui a également qui explique qu'il a voulu faire un hommage à Thomas Bernhardt, voilà, dans cette conférence.
Thomas Bernhardt qu'on va retrouver dans plusieurs théâtres de la saison.
Oui, voilà, Thomas Bernhardt qu'on va trouver notamment à Jean Villard.
Je crois aussi qu'il y en a un au 13 vent, il me semble.
Ah, alors ça, je
commence à mélanger tous les programmes.
Oui, voilà,
on a eu plein de présentations de saison à la suite. Voilà, donc Tito, tu rejoins de plus en plus l'équipe. Hein. C'est vrai qu'on va au théâtre pratiquement tous les soirs ensemble. On aime ça, on adore ça. Alors, je vais quand même rappeler quand même une chose sur les principes de Vendredi Théâtre. C'est donc une émission hebdomadaire et le principe, c'est de voir les spectacles avant d'en parler. C'est-à-dire que je pense que ça n'est jamais arrivé depuis un an qu'on parle d'un spectacle qu'on n'a pas vu.
Oui, ça permet que ce soit plus consistant et que le propos
très important, puisse être... Très important. Mm-hmm. Et on discutait avec Stanislas un peu hors antenne. Il disait, mais à chaque fois que d'habitude, quand on me reçoit pour parler d'une pièce, j'ai 5 minutes. Et là, avoir 30 minutes, ça fait partie du confort de Vendredi Théâtre. On prend le temps. Comme je dis toujours, Divergence FM, c'est une radio dont le principe est de n'en avoir aucun, si ce n'est celui de prendre le temps. Alors, nous allons aller au théâtre. Ça va recommencer. Là, il y a plein de choses en préparation. La semaine prochaine, il y aura des présentations de saison. Si tout se passe bien, nous recevrons Sortie Ouest, puisque nous commençons à sortir des frontières de Montpellier. Nous recevrons le Théâtre National de Sète. Et nous recevrons le Carré Rondelet, qui a une programmation tout à fait passionnante pour cette saison. Voilà, c'était Antoine avec nous à la technique, avec le petit Bruno. Ils sont tous derrière les vitres.
Petite aparté, parce qu'il faut que je prêche pour la paroisse. Au Carré Rondelet, il y aura une pièce de la compagnie Amadis Théâtre.
Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Et on va se quitter. Eh ben, on va reprendre Daniel Darc, parce que décidément, j'aime bien Daniel Darc. Et comme je suis un provocateur, on va mettre un psaume, le psaume 23, chanté par Daniel Darc, programmé par un athée bouffeur de curé. C'est quand même pas mal. Voilà, c'était Vendredi Théâtre sur Divergence FM. Et rendez-vous à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
De rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger.